Depuis des mois et des mois, le FLN n'a cessé de multiplier les contacts avec l'extérieur. L'ONU, où les représentants du tiers-monde sont devenus majoritaires, constitue pour le GPRA la tribune diplomatique idéale de sa propagande. Chaque session de l'ONU est l'occasion d'une nouvelle avance de la rébellion algérienne et d'un nouveau recul de la France. Il faut dire que la cause du GPRA y est défendue par lui avec vigueur et adresse, et qu'il y tire admirablement parti de l'attitude mouvante de la France.
Fort des déclarations du général de Gaulle, qui le 14 juin 1960 a en somme renié l'Algérie française pour y substituer l'Algérie algérienne, le GPRA obtient des reconnaissances de facto à travers l'univers.
Il installe un bureau permanent à Belgrade.
Il entretient des relations suivies avec la Chine communiste.
Il bénéficie de la faveur des nouveaux États africains et de l'appui déclaré des pays de la Ligue arabe.
Il va enfin recevoir de l'URSS un encouragement manifeste. C'est le sens du discours que prononce le 13 octobre 1960
M. Nikita Khrouchtchev. Голос народа, голос правды, который звучит и будет звучать. Конец, могила колониальному рабству. Долой его! И похоронить его чем глубже, тем лучше.
Monsieur Nikita Khrouchtchev répétera ensuite quelques jours plus tard: les Français perdront l'Algérie, nous souhaitons un succès total aux patriotes algériens.
Cependant, en Algérie, l'armée française poursuit inlassablement et courageusement la lutte contre tout ce qui, il y a peu de temps encore, s'appelait la rébellion. Et en Algérie, comme en métropole, on réprime le terrorisme qui fait rage. Mais progressivement, ces opérations changent de nom et de caractère. Il s'agit de moins en moins de pacification et de répression, de plus en plus de maintien de l'ordre.
Dans l'angoisse de toutes les menaces qui les étreignent, les partisans de l'Algérie française déploient leurs efforts dans le cadre d'organisations légales qui n'en seront pas moins dissoutes par la suite.
C'est au mois de mai 1960, en Algérie, le FAF, Front de l'Algérie française, sous l'égide du Bachaga Boualem, député d'Orléansville, vice-président de l'Assemblée nationale, qui groupe en quelques semaines des centaines de milliers d'adhérents.
C'est au mois de juin, le FNAF, le Front National de l'Algérie Française, qui, sous l'impulsion de Le Pen et Jean Dide, de Maître Tixier-Vignancourt et le corollaire, anime des militants à travers toute la France.
C'est à Paris le comité de Vincennes qui réunit autour des députés d'Alger, Loriol et Marseille tout un ensemble de personnalités politiques allant de Robert Lacoste, André Maurice, Bourgès Monoury, jusqu'à François Valentin et Georges Bidault. Et une masse importante de syndicalistes, d'universitaires, d'hommes de lettres, tels que Jean Lahargue, Jules Monroe, André Laffont et Jules Romain.
C'est au mois d'octobre, le regroupement national, qui à l'initiative de Jacques Soustel et en liaison avec le groupe parlementaire Unité de la République, tente de poser des structures politiques de défense.
C'est enfin le général Salan, expulsé d'Algérie où il avait pris sa retraite, qui, dans une conférence de presse, marque son opposition à la politique du gouvernement.
Mais dans le même temps, les tenants de l'Algérie algérienne, en réalité de l'indépendance, publient le manifeste des 121, et on arrête des membres du réseau Janson, organisme clandestin complice de l'action terroriste du FLN.
Quant à la ligne de conduite suivie par le général de Gaulle, elle conduit maintenant non plus à l'Algérie gouvernée par la France, mais à l'Algérie algérienne. Tel est le sens, chaque fois précisé, des déclarations, allocutions, conférences de presse présidentielles qui se succèdent sans interruption.
Nous sommes en train d'aider à se faire l'Algérie algérienne, c'est-à-dire une Algérie qui appartienne aux Algériens et dont nous croyons d'ailleurs que quand elle sera maîtresse d'elle-même, elle voudra rester unie à la France parce que c'est le bon sens et c'est l'avenir et c'est la paix. La paix pour l'Algérie, elle est à la porte.
Et encore.
Les dirigeants rebelles, installés depuis 6 ans en dehors de l'Algérie, et qui, à les entendre, le sont encore pour longtemps, se disent être le gouvernement de la République algérienne, laquelle existera un jour. Mais n'a encore jamais existé.
Les oppositions françaises et rebelles à cette politique sont mises dans le même sac.
Point d'intrigue, point d'ambition, point de combinaison, plus de prétention à l'intérieur. Les affaires publiques sont les affaires de l'État.
Il ne permettra pas que certains clans ou certaines personnes qui se taillent une sorte de situation personnelle, politique, syndicale, militaire, journalistique ou autre, prétendent peser à cause de cela sur la conduite de la France. La conduite de la France appartient... appartient à ceux qu'elle en a chargés. Elle appartient donc d'abord et par excellence à moi-même.
Et encore.
Se déchirer encore une fois, s'en aller de part et d'autre, pour ceux qui en prendraient l'initiative et la responsabilité, ce serait une grave faute contre le pays. La cohésion nationale est indispensable. Et je suis sûr que le pays, le jour où on lui demanderait d'en juger, en jugerait comme il convient.
Enfin, la menace de pouvoir exceptionnel est brandie.
Si le cours ordinaire des pouvoirs ne suffit pas, il m'appartient de recourir directement au pays par la voie du référendum. Quand la patrie et la République sont menacées, il m'appartient de prendre les mesures exigées par les circonstances, ce qui pourrait, le cas échéant, permettre d'avancer d'une manière décisive la solution algérienne, tout en sauvegardant l'État.
À la suite de la déclaration du 4 novembre 1960, qui marque un pas considérable dans la définition de cette Algérie indépendante, le maréchal Juin fait connaître publiquement qu'il désapprouve la politique algérienne du général de Gaulle, et qu'il ne participe pas aux cérémonies du 11 novembre.
Ce 11 novembre est en Algérie l'occasion de manifestations tumultueuses.
Viennent s'écrouler. Les heurts sont de plus en plus fréquents entre les forces de police et les manifestants.
Monsieur, la fête est terminée, rentrez chez vous. Première sommation. Nous allons faire usage de la force. On va faire usage de la force.
Les manifestants sont maintenant en train de déraciner les barres de fer des escaliers et vont s'en servir comme des massues. La sortie du tunnel des facultés, je viens de l'apercevoir à l'instant, la sortie du tunnel des facultés, une barricade est en train de se monter. Dans la rue Jean Massé, les CRS sont en train de lancer les grenades lacrymogènes.
Voici comment d'Espagne, où il a cherché refuge, le général Salan juge la situation.
Sur l'Algérie, en somme, le problème, nous le connaissons bien. Rien de nouveau n'a été indiqué, que nous le sachions déjà. Mais c'est la fin qui, incontestablement, mérite que l'on se penche sur un texte écrit et lu et bien pensé. Incontestablement, l'appel au pays indique qu'il est probable que le général va se tourner vers autre chose que ce que nous connaissons à l'heure actuelle, une constitution, et que nous allons certainement vers un pouvoir personnel.
Quelques jours après, le général de Gaulle fait en Algérie un ultime voyage pour y faire admettre sa politique. Il ne va que dans les villes secondaires. Dans les grandes cités, la colère gronde et les combats de rue opposent les populations aux forces de l'ordre.
Un manifestant vient de lancer juste en dessous de moi, je l'ai vu à 10 mètres à peine, une grenade offensive. Les gendarmes ripostent en renvoyant les pierres. Les pierres, les bouteilles, des bouteilles de bière à environ 30 mètres de distance à peu près. Les gendarmes ripostent en envoyant des grenades lacrymogènes. Tout à l'heure, je l'ai vu, un manifestant a lancé une grenade offensive qui est aisément reconnaissable. Pas sa couleur jaune. En voici une autre. Les manifestants refluent en criant « Attention les chars !» En effet, j'ai vu passer tout à l'heure un escadron entier d'automitrailleuses. Je vous laisse écouter le bruit d'automitrailleuses qui montent sur les trottoirs.
Pour la première fois dans toute l'histoire de l'Algérie, des musulmans, secrètement suscités, manifestent publiquement contre les Européens. Déferlant d'abord aux cris de commande « Algérie algérienne », les cortèges musulmans bientôt grossis en hordes crient « Algérie musulmane » et acclament le FLN. Et au youyou lancinant des femmes, c'est bientôt le désordre, l'incendie, le pillage, la tuerie. 122 morts en quelques jours. Nous sommes loin des 200 morts par an prévus pour une libre consultation.
À son retour d'Algérie, après les désordres que sa tournée y a occasionnés, le général de Gaulle propose le 20 décembre un nouveau référendum au pays et explique ce que devra être l'organisation de l'Algérie avant que n'arrive le temps de l'autodétermination.
Le peuple français est donc appelé à dire, le 8 janvier, par référendum, s'il approuve, comme je le lui demande, que les populations algériennes, lorsque la paix régnera, choisissent elles-mêmes leur destin. Cela signifie ou bien rompre avec la République française, ou bien en faire partie, ou bien s'y associer. Il est entendu d'avance que la France, pour ce qui la concerne, entérinera le choix. Personne ne peut avoir de doute sur l'importance extrême que va revêtir la réponse du pays. Pour l'Algérie, le droit reconnu à ses populations de disposer de leur sort marquera le début d'une vie toute nouvelle. L'Algérie sera donc algérienne. Ce sont les Algériens qui auront à régler leurs propres affaires et il ne tiendra qu'à eux de fonder un État avec son gouvernement, ses institutions et ses lois. La France va, d'une manière solennelle, prendre la décision d'y consentir. Lorsque, dans l'apaisement, les populations algériennes auront un jour à se décider. C'est sur des réalités qu'elles devront fonder leur choix, à moins qu'elles ne suivent en aveugle des gens qui les entraîneraient à un chaos désespéré. Quelles sont les réalités ? D'abord, celle-ci, qu'il existe aux côtés des musulmans plus d'un million d'habitants d'origine européenne qui sont eux aussi implantés, qui ont le droit strict de l'être, qui sont dans l'ensemble essentiels à la vie de l'Algérie et que, quoi qu'il arrive, la France, dont ils sont les enfants, assurera la protection, ainsi qu'elle le fera d'ailleurs pour ceux des musulmans qui, en tout cas, voudraient rester français. Il est donc de simple bon sens que les communautés musulmanes et la communauté française vivent ensemble, travaillent ensemble, coopèrent franchement au sein des mêmes institutions. Chacune ayant d'ailleurs des garanties positives et particulières en ce qui concerne ses droits, son mode de vie et sa sécurité. En vérité, l'aller à la France. Mais c'est avec une Algérie qui assurera la coopération des communautés où chacune d'elles aura organiquement des garanties appropriées
avec une Algérie qui sera unie à nous dans les domaines où il nous faut l'aider, que la France elle-même, pour sa part, conçoit l'association. C'est pour la préparer. Qu'en vertu du référendum, si la réponse est positive, seront institués des pouvoirs publics algériens, exécutifs et assemblés pour l'ensemble du territoire en attendant l'autodétermination. Que la vie et l'action publique seront décentralisées suivant une organisation régionale et départementale répondant à la diversité géographique et ethnique de l'Algérie, et que seront créés entre la métropole et l'Algérie des organismes ayant compétence dans les domaines communs, par exemple le plan de Constantine.
Le référendum a lieu le 8 janvier 1961. En métropole,
le Conseil constitutionnel est en mesure de donner connaissance des résultats globaux du référendum pour l'ensemble des départements de la métropole. Voici les chiffres. Inscrits 26 847 953. Votants 20 809 029. Suffrage exprimé 20 195 221. Oui 15 198 714. Non, 4 996 322. Algérie, inscrit 4 414 636. Votants, 2 639 494. Suffrage exprimé, 2 529 481. Oui, 1 million. 747 529, non, 782 052.
On a donc voté oui à 75% en métropole et à 69% en Algérie, où cependant, outre une abstention considérable dans l'ensemble du pays, on note une nette majorité de non dans les centres à forte densité européenne.
La voie est maintenant ouverte à la négociation, étape vers l'abandon. Mais il n'y a pas que le GPRA comme interlocuteur de la France, qui recherche coûte que coûte, non la victoire, mais la fin des combats. Il y a aussi le MNA. Voici Messaliadj, le patriarche barbu du nationalisme algérien, qui répond aux questions d'un journaliste.
Les deux tendances, FLN, MNA, sont-elles conciliables?
Je pense que oui, car le MNA lutte depuis plus de 40 ans pour l'indépendance de l'Algérie. Il est l'initiateur, l'éducateur. Par conséquent, il n'y a contre fond rien qui sépare le FLN et le MNA.
Sous quelle forme le MNA envisage-t-il l'Algérie algérienne?
L'Algérie de demain, l'Algérie algérienne sont évidemment autant de choses qu'on ne peut, dans l'état actuel des choses, définir. Non pas parce que nous ne voulons pas, mais pour ne pas précisément gêner les négociations en cours.
Les deux communautés peuvent-elles à nouveau fraterniser?
Je connais aussi bien les Algériens musulmans que les Algériens non musulmans et je suis convaincu qu'ils vivront très fraternellement ensemble.
Enfin, nous avons posé cette question au leader du MNA. Qu'attendent les différents mouvements nationalistes pour tendre la main au général de Gaulle?
Je ne sais pas précisément où en sont les négociations, les contacts, les émissaires dans leurs travaux, mais quant au MNA, il est disposé non seulement d'y participer, mais de les faciliter.
Le 27 février, nouvelle relance des négociations. Habib Bourguiba, après s'être entretenu à Rambouillet avec le général de Gaulle, déclare:
d'ici quelques jours, n'est-ce pas, durer même pas quelques semaines, n'est-ce pas? Il y aura du nouveau dans cette question, n'est-ce pas, algérienne. Je souhaite que de part et d'autre, surtout du côté algérien, n'est-ce pas, on se rende compte de l'importance, n'est-ce pas, de cette grande partie qui se joue, n'est-ce pas, et que le général de Gaulle est décidé à mener à bonne fin, n'est-ce pas, jusqu'au bout, et qu'il trouve de la part, n'est-ce pas, des responsables algériens, comme il a trouvé de la part, n'est-ce pas, des Tunisiens, la compréhension, n'est-ce pas, l'aide nécessaire pour mener à bien et pour remporter, n'est-ce pas, cette grande victoire dont dépend la stabilité, n'est-ce pas, de l'Afrique et le bonheur, n'est-ce pas, des peuples d'Afrique du Nord.
Il ajoute, parlant de son illustre interlocuteur,
j'ai l'impression que nous avons affaire à un homme qui veut réellement, sincèrement et honnêtement engager le processus de décolonisation en Algérie pour aboutir à une Algérie et la France, surtout dans cette période de transition où les Algériens seront obligés de tout créer.
Le 17 mars, Mohamed Yazid annonce de Tunis les prochains pourparlers.
Le gouvernement provisoire de la République algérienne a pris des dispositions en vue d'aboutir à la rencontre des délégations officielles émanant des deux gouvernements.
Ce qui retarde les conversations, c'est que la France, par la bouche de M. Louis Jox, a déclaré vouloir converser non seulement avec le FLN, mais aussi avec le MNA. Ferhat Abbas marque d'avance les réserves que le GPRA entend apporter aux résultats des pourparlers qui vont s'ouvrir à Évian.
À la veille de cette rencontre, aucun problème n'a été réglé. Les contacts et les sondages dont on a abondamment fait état et qui remontent au mois de janvier dernier n'ont abouti qu'à un seul accord, celui de voir s'engager par l'organe d'une délégation officielle des négociations concernant les conditions d'application de l'autodétermination. La négociation n'est pas la paix.
Cependant, s'est achevé au palais de justice de Paris le procès des barricades, dont les débats se sont déroulés avec bien des péripéties tout au long des semaines d'hiver. Des accusés sont dans le box, d'autres n'y sont plus, ayant préféré l'exil. L'enceinte du tribunal est devenue l'un des lieux où, en France, peut encore s'exprimer hautement et librement l'option de l'Algérie française, que la censure et la police ont bâillonné en Algérie et qui va bientôt être réduite au silence dans la métropole. Maître Tixier-Vignancourt, dans sa plaidoirie principale, fait la synthèse des débats.
La seule nouveauté, la seule différence en matière de guerre subversive est que Clémenceau écrase les auxiliaires de l'ennemi et qu'aujourd'hui il bénéficie d'une immunité spéciale. On dirait en vérité que les notions du bien et du mal ont été inversées et que l'on a imposé à ce pays un changement d'éthique. Défendre l'intégrité du territoire hier, c'était un bien. Aujourd'hui, c'est une infraction. Favoriser les entreprises de l'ennemi, hier c'était un crime. Aujourd'hui, c'est une règle d'or. Comment donc, messieurs, ces règles nouvelles et singulières ont-elles été appliquées à Algérie? Schématisons. Le 20 janvier 1960, l'Algérie c'est Massu, Boualem et la Gaillarde. C'est l'armée, la communauté musulmane et la communauté chrétienne. Et contre ce bloc vivant et fort, qui manifeste à la désintégration une résistance acharnée, il est impossible pour la rébellion de la sécession d'espérer triompher si, avant, on n'a pas livré Massu au désœuvrement, désigné Boualem au couteau du FLN et livré la Gaillarde à l'administration pénitentiaire. Voilà, messieurs, le programme. C'est contre l'accomplissement de la première partie du programme que le peuple d'Alger s'est levé le 24 janvier 1960.